Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, durant tous les deux mois d'été, nous avons pu méditer longuement sur le roi David, le roi et le prophète, roi et prophète David, en tout 7 sermons sur le roi David. Aujourd'hui, en un seul sermon, je pense, nous allons voir la grande figure du roi Salomon, son fils. Ainsi, nous clôturerons cet aperçu très partiel sur l'histoire de l'Ancien Testament, avec deux grands rois. Ainsi, Salomon, fils et successeur de David, a régné de 1015 à 975. Avant notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Sa mère, c'est Bethsabée, qui a 4 fils. Le fils de l'adultère qui, comme Nathan, le prophète, avait bien dit à David, meurt. Et il meurt après 7 jours de vie. Il s'appelait Samua. Et puis il y a un fils dont la Sainte Écriture ne parle que très peu, c'est Sobab. Sans doute est-il mort enfant. Un troisième fils, Nathan, qui sera la souche d'une descendance qui aboutit à Saint-Joseph. Nous voyons cela en Saint-Luc, chapitre 3, verset 31. Et puis, quatrième fils de David et Bethsabée, c'est Salomon. Sa jeunesse et son éducation ont été fort soignées à la cour par Bethsabée, qui a choisi pour lui de grands précepteurs. Ce jeune homme sera témoin de la révolte dont on a parlé d'Absalom. Absalom qui mourra sous les glaives de Joab, mais d'abord il avait été dans sa fuite éperdu. Une fois que le complot est dévoilé, il fuit à son tour David, qu'il poursuivait. Et Absalom mourra, la tête prise dans un térébinthe, une fourche. Le cheval continue sa course et Absalom, eh bien, lui, est comme asphyxié. Et c'est Joab, le grand guerrier de David, qui n'est pas sans faute, qui va le tuer. Donc Salomon a été témoin de cette mort et de la révolte et de la mort d'Absalom. Et puis des calamités, de la vieillesse de David. Donc, suite à cette révolte d'Absalom, David a pris les devants. En effet, vous vous rappelez qu'Absalom voulait supplanter le roi, malgré lui, à son insu. Alors, David a pris les devants pour que soit désigné son successeur, parce que Dieu ne l'avait pas fait. Et le prophète Nathan a suggéré à David de prendre Salomon comme futur roi. Également, Adonias, le fils aîné de David, ce n'était pas le fils de Bethsabée, mais le fils aîné de David, avec une autre épouse, avait en vain essayé de devenir roi. Alors, David voit bien que le pouvoir n'est pas du tout réglé et stable, établi. C'est le prêtre Sadoc qui va oindre Salomon pour le faire roi. Et il fut à ce moment-là acclamé. Alors Adonias, qui avait aussi essayé de prendre la place de David, a demandé grâce. Il ne voulait pas mourir, sachant comment était mort Absalom. Donc Adonias demande la grâce et Salomon la lui accorde. À condition, tiens-toi tranquille. Attention, fais pas comme ton frère Absalom, tiens-toi tranquille et loyal envers moi, le roi. Mais comme ce sacre, premier sacre de Salomon, avait été effectué comme en cachette, alors publiquement, il sera sacré une seconde fois. Et là, il est acclamé par tout le peuple hébreu. Dans ce règne, Salomon va montrer sa force. Il va éliminer ceux qui s'y opposent. Adonias, Joab aussi, Joab qui n'est pas heureux de cette nouvelle royauté, et également le grand prêtre Abiathar, qui avait trompé dans le complot d'Adonias. Et tout n'est pas merveilleux dans cette histoire sainte. Il y a des pécheurs. Il y a des pécheurs. Ne nous troublons pas, des pécheurs ne seront pas scandalisés, des pécheurs. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour ôter le péché. Lui qui n'a pas péché, et bien aussi il a des ascendances humaines bien pécheresses. C'est là le rôle éminent de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient éradiquer le péché par sa venue merveilleuse, divine, extraordinaire. Durant son règne, le roi Salomon aura des temps de paix. Donc au départ, un peu de difficulté, mais il met vite de l'ordre. Et justement, Salomon signifie pacifique. Rex pacificus. Il anticipe ainsi sur notre Seigneur Jésus-Christ qui, à Noël, nous est montré comme le roi pacifique, le roi de paix. Pourquoi le roi de paix? Parce qu'il vient établir la paix dans les âmes, par la grâce sanctifiante. C'est une image, une anticipation de notre Seigneur Jésus-Christ, ce roi Salomon, roi pacifique. Le grand œuvre qu'il va accomplir, Salomon, dans son règne, c'est le temple. Le temple. David, on l'a vu, n'a pas édifié le temple à cause de toutes les guerres qu'il avait menées, soit de façon positive, soit de façon négative, en se défendant des envahisseurs, des païens. Mais Salomon sera député le privilège de construire ce temple. David, on l'a vu également, avait préparé les matériaux, mais ce n'est pas lui qui le construira. Et Salomon continuera ses préparatifs, 3 ans de préparatifs, 7 ans de construction. Alors, il n'est pas inintéressant de voir ce temple, figure de nos temples, mais c'est une figure, comme tout l'Ancien Testament, une figure et comme une ombre, ce n'est pas la réalité. Et pourtant, ce temple de Jérusalem était extraordinaire. Écoutez voir la façon dont il fut fait. Il prépara donc, dans ces 3 ans, les matériaux, les hommes et les matériaux. Donc les pierres que 80 000 hommes extrayaient des carrières de Jérusalem et le bois de cyprès que 30 000 hommes abattirent sur le mont Liban. La construction dura, comme je l'ai dit, 7 ans. Et ce qui est merveilleux est ce qui suit. Pierre de taille, bois et lambris avaient été si exactement mesurés d'avance que les travaux se firent dans le plus grand silence. Pas un bruit dans le temple qui se construirait. Pas un bruit. On anticipe ainsi dans ces matériaux, dans cette façon d'amener les matériaux, de travailler sur la réalité. Dans nos temples où Dieu réside. Dans le temple, ce n'était pas Dieu qui résidait, c'était l'Arche d'Alliance, c'était la manne, la verge d'Aaron, c'était des figures de la loi nouvelle. Déjà ce recueillement, ce silence, ce respect envers Dieu. Et parfois dans nos temples, c'est bien le contraire. Aller dans les églises de nos jours, et on dirait des halls de gare, une foire. Tout le monde parle, tout le monde chante. On ne pense plus au bon Dieu. Du moins, pensons-nous nous-mêmes au bon Dieu qui est présent dans nos temples. Ne parlons pas dans les chapelles, dans les églises, sans nécessité. Voyez, qu'on voit le sérieux que ce temple de Jérusalem comportait en lui-même. Je continue, c'est magnifique. On n'entendait dans la maison de Dieu ni marteau, ni hache, ni instrument de fer pendant qu'on l'édifiait. Et Salomon prit comme plan celui du tabernacle de Moïse, mais il lui donna des proportions bien plus vastes. Il accumula tout ce qu'il pouvait de richesses, les plafonds, les planchers en bois précieux étaient relevés de plaques d'or. Les autels et les tables étaient recouverts d'or. Les candélabres, les vases sacrés étaient en or massif. Des chérubins et des palmiers recouverts d'or ornaient tous les murs du temple. Quand les travaux furent achevés, Salomon dédia avec une très grande solennité ce temple au Seigneur. En présence de tous les anciens d'Israël et d'un peuple immense appartenant aux 12 tribus d'Israël, les prêtres transportèrent l'arche d'alliance dans laquelle se trouvaient les tables de la loi de Moïse, sous les ailes déployées des deux chérubins recouverts d'or et haut de 10 coudées. 10 coudées, ça fait 3 mètres, qui se dressaient dans le sanctuaire. Puis, on immola des milliers de brebis et de bœufs. Et lorsque le prêtre, les prêtres sortirent du Saint des Saints, la nuée remplit la maison du Seigneur. La nuée, c'est le signe que le bon Dieu est présent. Cette nuée qui était visible durant toute cette traversée du désert entre la mer Rouge et la terre promise. Alors Salomon, levant les yeux vers le ciel, demanda à Dieu d'écouter les supplications de tous ceux qui, Israélites ou étrangers, viendraient, dans les différentes circonstances, malheureuses ou malheureuses de leur vie, le prier en ce lieu qu'il était consacré. Et ces solennités durèrent 14 jours. Et puis, le peuple s'en retourna chez lui. Et le Seigneur apparut à Salomon en lui disant, « J'ai exaucé ta prière. Je choisis et sanctifie le temple que tu m'as élevé. Là seront toujours mes yeux et mon cœur pour veiller sur mon peuple fidèle. » Mon peuple est fidèle. Mais s'il n'est pas fidèle, eh bien c'est ce qui s'est passé plus tard. Puisqu'ils ont, ce peuple n'a pas accueilli notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le temple de Jérusalem a même été démoli. Il ne restera pas pierre sur pierre en toi parce que tu étais infidèle. Tu n'as pas reçu l'annonce qui t'a été faite, dira notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, demande la fidélité. Quelle leçon ! L'Ancien Testament est toujours une leçon pour nous. L'ombre, la figure pour la réalité. Mais il est plein d'enseignements, cet Ancien Testament. Donc Salomon, une fois qu'il a construit ce temple, prévu par David, eh bien, les fidèles vinrent prier. Notre Seigneur ira prier dans ce temple. Chaque année, il y aura le pèlerinage à Jérusalem. Le plus grand pèlerinage que Jésus a fait, bien sûr, c'est à l'âge de 12 ans. C'est le mystère de sa présentation, déjà oui au temple, à 40 jours, mais aussi quand Jésus a 12 ans, il va au temple avec Notre-Dame et Saint-Joseph, et puis il est perdu, et Notre-Dame et Saint-Joseph le retrouvent après de longues recherches dans ce temple. Il prend possession de ce temple. Salomon a été un roi très sage. La sagesse de Salomon est légendaire. Mais ce n'est pas une légende, c'est la réalité. Légendaire au sens que cette sagesse était, la renommée de sa sagesse était répandue bien au-delà des frontières de la Palestine. Mais la reine de Saba viendra pour écouter la sagesse de Salomon. Et Salomon écrira plusieurs livres inspiré, le Cantique des Cantiques, les Proverbes, l'Ecclésiaste, livre de la sagesse, des grands livres du roi Salomon. Salomon, hélas, à la différence de son père, qui a fauté gravement, lourdement, il y a plusieurs reprises, dans la pureté, dans l'orgueil, on l'a vu, Salomon, bien qu'il ait commencé, va s'égarer. Il va s'égarer. Par de grands désordres, de très grands désordres. Comme dit bien saint Paul dans l'épître entendu en ce dimanche aux Galates, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Et Salomon pensait être arrivé au fait de la sainteté, de la gloire, il ne s'est plus méfié de lui-même, il a plus eu cette défiance. Il s'est cru presque comme un dieu. Alors, eh bien le bon Dieu l'a non pas abandonné, et c'est lui qui a abandonné le bon Dieu. Et Salomon s'est livré dans la débauche et puis aussi l'idolâtrie. En effet, il a épousé des femmes qui étaient païennes, qui livraient leur âme à des démons, et ces femmes ont perverti son cœur et son âme, à tel point qu'on ne sait pas si Salomon est sauvé. C'est un mystère. C'est un mystère. Saint Augustin dit ceci de Salomon. Salomon est tout de sagesse, eut tant de sagesse qu'on aurait cru que la promesse de Dieu sur la descendance de David s'accomplirait en lui s'il n'était pas tombé. Il n'avait ainsi donné lieu à espérer dans le Christ. Donc avec la chute de Salomon, eh bien tous les Israélites verront que ce n'est pas Salomon qui est le Messie. Mais on aurait pu croire, selon l'enseignement de saint Augustin, qu'il était si sage, si saint, que c'était lui le Messie. Et non, il a été faible, il a failli. Donc les Israélites, les Hébreux, continueront à espérer dans ce Messie qui va venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cause du roi David, on voit la bienveillance, la condescendance de Dieu face à Salomon. À cause de David, lui dit Dieu, il sera épargné de son vivant, bien qu'il était un grand pécheur. Mais son royaume passera à un autre qu'à son fils après sa mort. Voyez, on voit les conséquences du péché. Parce qu'il était infidèle, alors le règne du Messie passera à un autre. Et c'est pour cela, vous voyez, que c'est Nathan qui verra, qui ne verra pas. Mais c'est de Nathan que sortira le Messie dans son humanité. Eh bien, chers frères, ce sont des grandes leçons que nous donne la Sainte Écriture. Le roi David, qui était pécheur, mais qui s'est repenti de ses péchés, qui a demandé pardon au bon Dieu, il a frappé sa poitrine, il a chanté ce miséréré, le psaume 50, plein de douleur pour ses péchés et plein de confiance en Dieu. Salomon n'a pas suivi son père. Au début, oui, mais pas à la fin. Comme quoi, c'est important d'être vigilant. Une grande leçon de vigilance, d'amour du bon Dieu et de vigilance sur soi-même. Saint Philippe Neri, au XVIe siècle à Rome, avait cette délicatesse d'âme. Il était éperdu d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, il était défiant de lui-même. « Seigneur, méfiez-vous de Philippe. » Il s'appelait Philippe. « Méfiez-vous de Philippe, car ce soir, je peux revenir ayant déserté la foi, l'amour que j'ai pour vous. » Donc, ayant une confiance en Dieu, l'espérance en Dieu et une grande défiance de soi-même. C'est la grande leçon de ces deux patriarches, de ces deux rois, roi et prophète, David et Salomon. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.